Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Avec Kaoutar Archi.
C'est parti!
Cette semaine, on va parler de non-mixité, d'où vient cette stratégie et quels sont ses bénéfices. On va en parler avec Kaoutar, salut.
Salut Clémentine.
Ça va?
Ça va très bien et toi?
Ça va.
Enfin, très bien.
On se maintient. Alors, pour parler tout de suite de l'actualité féministe, le chroniqueur Fabien Lecoeuvre nous a donné un petit aperçu de son avis non sollicité sur le physique de la chanteuse Oshi et les réactions n'ont pas tardé à se faire entendre.
Oui, j'adore entendre ces mots. Non, franchement, ça fait mal au cœur. C'est pas normal d'entendre ça à la télé en 2021. Et c'est profondément blessant pour moi, pour ma famille, pour les gens qui m'écoutent. Voilà, c'est dur.
On vous les a signalés, ces propos, ou vous les avez découverts
Non, on me les a envoyés. En fait, à la base, c'était la diffusion d'un titre d'un chanteur qui s'appelle Tony Gage, je crois. Et en fait, il est parti en roue libre totale sur moi, alors que j'étais même pas dans l'interview, j'étais pas citée, quoi.
C'est vraiment une affaire incroyable, mais qui me semble très parlante. Très parlante, et on imagine comment ce type de réaction peut s'incarner à la fois en injonction pour les femmes, pour les jeunes femmes, mais aussi, du coup, en exclusion, en manière de les hiérarchiser sur leur physique, etc. Donc, grand soutien aussi.
Quoi d'autre?
On a eu droit à, j'allais dire, un retour, mais est-ce que Marlène Schiappa est un jour partie? Non, je ne crois pas. Mais Marlène Schiappa nous est revenue plus insupportable que jamais. Elle veut désormais lancer ce qu'elle appelle des QSR, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est-à-dire des quartiers sans relou, autrement dit une manière de créer des baromètres pour mesurer le harcèlement de rue. On se doute de quel quartier elle parle et on se doute de l'identité de ces fameux relous en écrivant ce type de projet, en faisant ce type d'annonce. Je crois que Gérald Darmanin n'était pas à son... T'es pas présent à son esprit, malheureusement, pourtant il est le plus grand relou des relous que nous ayons actuellement à subir.
Effectivement, bon à suivre en tout cas. Alors pour parler du sujet de la semaine, donc la non-mixité, on va d'abord récapituler un peu la chronologie des faits, puisque cette question occupe en ce moment l'actualité et le débat public en France. Alors, tout est d'abord parti de l'UNEF, puisque cette révélation fracassante a eu lieu sur Europe 1 le 17 mars. Il est apparu que le deuxième syndicat étudiant de France organisait deux fois par an des réunions dites non mixtes. Je cite, selon la présidente donc, de l'UNEF, Mélanie Luce, pour permettre aux personnes touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent.
La question, c'est pas est-ce qu'il y a des réunions qui peuvent s'organiser. Les réunions qui s'organisent dans l'UNEF en non-mixité, eh ben effectivement, il y en a en non-mixité femmes, par exemple. Les femmes de l'UNEF se réunissent en non-mixité.
Mais est-ce que vous avez des réunions où les blancs sont exclus, Madame Luce? La question est simple.
D'accord, la question est simple. La réponse aussi. Si vous ne me laissez pas répondre, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, pourquoi m'inviter?
Donc, un tollé politique a eu lieu. La classe politique s'est d'ailleurs divisée sur le sujet, puisque, par exemple, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a de son côté estimé que ces pratiques pouvaient mener, je cite, à des choses qui ressemblent au fascisme, tandis que, en face, dans le camp de la France insoumise, selon les mots du député de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, les réunions non mixtes, c'est vieux comme le mouvement féministe, je le cite encore, vieux comme le mouvement ouvrier qui n'invite pas les patrons, vieux comme les étudiants juifs de France ou les jeunes ouvriers chrétiens. En fait, ce qui dérange, c'est quand ça concerne des Noirs et des Arabes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Kaoutar?
Ensuite, il s'est passé quelque chose dont les auditeurs et les auditrices se souviennent peut-être. C'est cette fameuse interview qu'Audrey Pulvar a donnée. Audrey Pulvar a notamment précisé si vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, etc., j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas question de le jeter dehors. En revanche, poursuit-elle, on peut lui demander de se taire, lui demander d'être un spectateur silencieux. La candidate PS pour les régionales en Île-de-France a donc affirmé d'une certaine manière son soutien à ces réunions non mixtes pour les personnes racisées. Et effectivement, comme tu le disais Clémentine en évoquant Mélanie Luce, ici encore, Audrey Pulvar a provoqué un véritable tollé, notamment sur les réseaux sociaux, puisqu'elle a été accusée de pensée anti-républicaine.
Oui, et la réaction politique ne s'est pas fait attendre, puisque le 1er avril, et ce n'était pas une blague, les sénateurs et les sénatrices qui étaient présents et présentes ont adopté à l'unanimité ce qu'ils et elles ont appelé un amendement UNEF, c'est-à-dire donc un amendement qui permet de dissoudre, le cas échéant, les associations faisant des réunions non mixtes, racisées, tout cela ayant lieu dans le cadre de la loi séparatisme dont on parle beaucoup en ce moment. Voilà, donc il y a vraiment eu un effet domino autour de cette question de la non-mixité et des actions très concrètes qui ont été prises très rapidement.
Effectivement, et si on continue à reconstruire le fil des réactions qui ont accompagné ces éléments politiques, on peut noter notamment une tribune qui a été signée par des syndicats, par des féministes, mais aussi par des militants de la cause LGBT+. Et ces derniers et ces dernières, dans une tribune donc publiée par Mediapart, écrivent « La discussion autour de la non-mixité est présente dans le débat public depuis plusieurs années déjà. Elle oppose les tenants d'un universalisme républicain illusoire qui préfère fermer les yeux sur les réalités sociales des inégalités et des oppressions subies par les minorités pour réclamer une égalité de façade aux militants antiracistes qui utilisent la non-mixité comme un moyen d'organisation et de lutte. » Et ils et elles poursuivent. En effet, il faut souligner que même si diverses autres organisations militantes l'utilisent également, féministes, LGBTI ou syndicales par exemple, l'amendement, donc le fameux amendement UNEF, voté le 1er avril par le Sénat, ne concerne que la non-mixité consacrée aux personnes racisées, c'est-à-dire un mode d'organisation de lutte anti-raciste. Et il conclut par cette question. Comment comprendre cette inégalité de droit entre des organisations autrement que comme une énième manifestation du racisme du gouvernement ? Et le propos, en effet, est très clair.
Oui, il faut contextualiser aussi puisqu'il y a un précédent à toute cette affaire. En 2017, le collectif afro-militant Moissy organisait un festival qui s'appelait Nyan Sapo à Paris et dans lequel certains espaces non mixtes vont permettre l'organisation d'ateliers, sachant que ces espaces ne constituent pas l'intégralité du festival. Néanmoins, le festival a été très attaqué, notamment sur les réseaux sociaux, à tel point que la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait même menacé de l'annuler dans son intégralité, et même de saisir la LICRA, au prétexte que ces ateliers avaient lieu dans des espaces publics de la mairie. Finalement, ils ont été organisés dans des espaces privés, et la controverse s'est plus ou moins arrêtée. Mais en tout cas, à ce moment-là, on a pu entendre parler de repli identitaire, par exemple. Et il faut rappeler, évidemment, que cette polémique n'est pas sortie de nulle part, puisqu'elle avait été lancée, comme par hasard, par l'extrême droite et le site F de Souche, avant de se répandre un peu partout en France.
Par contre, dans la poudre, on parle de féminisme. Mmh. Et il y a une polémique qui touche en plein cœur cette question, celle qui vous a opposé au festival Le Nyan Sapo, que l'organisation afro-féministe Moissy a organisé à l'été 2017. Ouais. Moi, j'ai pas compris.
C'est vrai.
En tant que féministe, j'ai été déçue. Ouais. Et j'ai été blessée que vous sembliez vous opposer à la tenue de réunions non mixtes, alors qu'en plus, vous avez suivi le MLF à l'époque et vous savez certainement que c'était une technique qui était assez approuvée à l'époque. Et surtout, j'ai été blessée que vous relayiez un vocabulaire qui n'est pas employé par ces militantes, qui est plutôt celui d'une forme de fachosphère. Dire qu'un atelier est réservé aux femmes noires, ça veut pas dire qu'il est interdit aux blancs. Est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez différemment ?
D'abord, ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites. Il y a l'expression, enfin, le sentiment qui est le mien sur la mixité, qu'il y ait des endroits où les femmes se retrouvent entre elles parce que elles vont parler des violences faites aux femmes et qu'elles n'acceptent pas et elles ont raison à ce moment-là d'avoir une présence masculine. Ça ne me choque pas, bien sûr. Et bien évidemment, dans le féminisme tel qu'il s'est construit, il y a tout ça. Ce qui me choque, c'est lorsqu'on y intègre des éléments de couleur de peau, d'origine. Ça me choque profondément.
Ça vous choque encore?
Ah ouais, ça me choque encore profondément. En quoi le fait que moi, je, en tant que femme, je rencontre des difficultés de femme, en quoi cela m'interdirait de participer à un endroit où c'est selon l'origine que on va réunir des femmes. Donc le mot réservé n'est pas le bon, ça je suis d'accord. Hein,
et, interdit plutôt.
Enfin en tous les cas, il faut le vocabulaire faire très très attention, et vous avez raison sur la façon dont la fachosphère utilise ça. Mais
si vous comprenez que une femme peut avoir pas envie de parler de viol devant un homme, peut-être que vous pouvez comprendre pourquoi une femme noire ne veut pas parler de racisme devant une femme blanche.
Ça, j'ai beaucoup plus de mal.
Effectivement, et on se souvient notamment que les deux figures militantes antiracistes et féministes, Fanny Anoël et Sia Masbag, avaient été particulièrement visées par cette polémique. Elles avaient été en première ligne et elles avaient répondu de manière très claire et très franche. On peut retrouver sans trop de difficultés les textes qui avaient notamment été écrits à l'époque pour répondre, et qui demeurent des textes de référence, puisqu'il permettait déjà de comprendre ce qu'il se passait par rapport à cette question de la lutte antiraciste et des espaces non mixtes en contexte de racisation. Un point de comparaison qui me semble être important de préciser, un point spécifique. En effet, les auditeurs et les auditrices se rappellent peut-être que sur le plateau de l'émission C'est politique, la journaliste et écrivaine Laure Adler est intervenue et a tenu des propos qui sont plus que nécessaires et qui étaient plus que clairs sur la question de la non-mixité de genre.
Je peux vous raconter qu'effectivement, le mouvement de libération des femmes, quand il s'est constitué, il est né sur le principe que quand on se retrouvait entre femmes uniquement, quelque chose allait se produire. On n'est pas obligé de nous croire. Ben oui, ça se produisait. Une autre parole surgissait. On ne parlait pas du tout de la même manière. Moi-même, j'étais très jeune et j'étais la première étonnée. Moi, j'aimais bien être avec des garçons, avec tout le plaisir qui s'ensuit. Mais quand je me suis retrouvée avec des filles, et uniquement avec des filles, je me suis aperçue que ce qui surgissait comme type de parole était des paroles totalement inattendues, à la fois des camarades filles qui étaient dans les mêmes groupes de paroles, mais de moi aussi, et qu'il y avait une écoute, une bienveillance, etc., qui n'existait pas dans les groupes, enfin dans les réunions festives. Donc quelque chose se produisait, mais nous rapportions tous les ans à la mutualité, ça se passait à Paris, devant des assemblées mixtes, le fruit de notre travail dans les groupes de parole.
Par la suite, de nombreuses interventions sur Twitter ont emboîté le pas à Laure Adler et ont défendu à leur tour le principe de la non-mixité à partir du principe féministe. Or, il me semble que la question ici qui est posée, l'attaque qui est clairement lancée par le gouvernement, n'est pas tant celle du principe féministe, mais bien du principe anti-raciste. Donc, on pourrait dire que la question à laquelle nous devons nous confronter n'est pas tant celle du genre, mais bien celle de la race. Alors, je comprends que parler de race demeure quelque chose d'extrêmement difficile pour un grand nombre de personnes, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas juste d'user du genre pour dire la race. Et pour dire la race, c'est très simple, il suffit de dire la race. Ce manque de justesse, c'est un manque de justesse à deux titres. Dans un premier temps, ce n'est pas juste politiquement, car on ne peut pas nier un rapport de domination. Ici, le rapport de domination de race, car cela contribue d'une certaine manière à sa perpétuation. Et dans un second temps, ce n'est pas juste non plus, car la mixité de genre ne coïncide pas avec la non-mixité de race. Plus précisément, la méthode qui veut qu'on établisse un parallèle entre ces deux formes de non-mixité ne tient pas, puisque les attaques dont elles font l'objet ne sont pas symétriques, ne sont pas similaires. Donc ça me semble très important à chaque fois, lorsqu'on parle de la question de la non-mixité, bien évidemment que la question du principe féministe peut être mobilisée, mais pas mobilisée pour rabattre la question raciale sur une certaine forme de silence, voire une certaine forme de déni.
Oui, d'ailleurs, à ce sujet, on peut citer le militant panafricain João Gabriel, qui, dans un article titré « Les comparaisons entre la non-mixité femme et la non-mixité racisée ne sont pas pertinentes », écrit, je le cite, « Or, le parallèle en permanence avec la non-mixité femme et la non-mixité non-blanche contribue à faire croire que le problème, c'est la non-mixité des opprimés en soi, peu importe le sujet, ce qui est faux. Donc, il faut faire attention à l'analogie perpétuelle race-genre, et pire, à la mise en équivalence race égale genre, car les choses ne marchent pas du tout ainsi, et une telle façon de voir les choses conduit à invisibiliser le rapport de force qui est bien plus défavorable à l'antiracisme radical et à la race comme grille d'analyse. »
Effectivement, c'est très juste et vous pouvez retrouver cet article dans les liens en référence. Alors, dans une perspective intersectionnelle, oui, en effet, les rapports de domination sont bien genrés, ils sont bien traversés par une subalternité de classe et par une subalternité de race et inversement. Pourtant, du point de vue des agents et des agentes, du point de vue de l'agentivité politique que ces derniers et ces dernières déploient, il est important que l'autonomie politique antiraciste ne soit pas continuellement menacée par l'hégémonie d'un féminisme blanc et bourgeois. Une fois ce point précisé, je crois qu'on peut poursuivre.
En effet, merci. Oui, je pense que d'abord, il faut aussi recontextualiser la place de la non-mixité dans l'histoire, puisqu'en ce moment, on a l'air de la découvrir comme si c'était véritablement un phénomène nouveau, alors qu'en réalité, c'est une stratégie qui est mise en place par les dominants et les dominantes depuis la nuit des temps. D'ailleurs, donc la non-mixité, c'est plutôt une norme qui est historiquement masculine et qui a pu servir d'instrument de contrôle patriarcal. Alors, si on met un peu à part les ordres religieux où cette non-mixité a été parfois subie, parfois choisie chez les prêtres ou les clercs, il y a pu y avoir un certain nombre de congrégations professionnelles, par exemple, des confréries comme les Compagnons du Devoir, qui devaient, en plus d'être entre hommes, rester célibataires jusqu'à leur embauche et la fin de leur apprentissage. Et un exemple vraiment parlant de cette non-mixité qui est rarement questionnée, c'est le cas des gentlemen's clubs anglo-saxons qui se sont développés tout au cours du 19e siècle et qui sont restés interdits aux femmes. Par exemple, à Londres, on a pu les voir dans le quartier qu'on appelait Clubland, donc entre St James et Pall Mall. Et ces clubs s'organisaient selon divers intérêts, donc l'aristocratie, le monde artistique, la politique, etc. D'ailleurs, ces dernières années, une entrepreneuse anglaise qui s'appelle Emily Bender a carrément attaqué en justice le Garrick Club, qui est un de ces clubs vraiment ancestraux, pour qu'il s'ouvre enfin aux femmes. Et effectivement, en regardant l'histoire de ces clubs masculins, on voit que cette tradition d'exclusivité de genre n'est pas du tout née d'une discrimination, mais au contraire de la mise en commun d'intérêts qui produisent bien souvent une culture toxique d'exclusion et qui va renforcer la domination masculine. Ce qui n'est à l'inverse pas du tout le cas des clubs féminins, par exemple, on le verra par la suite. Et donc, dans ces boys clubs, bien souvent, le privilège est invisible. Et d'ailleurs, à tel point que ces clubs existent encore, même en France. On peut citer notamment l'Automobile Club de France, le Jockey Club, le Travelers Club, dans lesquels les femmes restent tolérées si elles sont accompagnées, et ça ne semble déranger personne. D'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie à un article de Madame Figaro, écrit par notre consoeur Pauline Verdusier.
Effectivement, et pour venir d'une certaine manière contrer ce type de stratégie de domination, on peut notamment concevoir le syndicalisme comme une forme assez intéressante d'inspiration et de conceptualisation de ce type de résistance. L'industrialisation au XIXe siècle va notamment faire apparaître une culture ouvrière beaucoup plus politisée. C'est là que quelque chose de l'idée du syndicat se forge et va notamment favoriser l'émergence d'une forme d'entraide, d'une forme de solidarité entre les ouvriers et les ouvrières. Pendant longtemps, la grève est interdite et les pouvoirs publics vont ensuite reconnaître le droit de grève et le droit de se syndiquer, mais c'est quelque chose qui reste particulièrement mal vu. Les réunions entre ouvriers, qui sont donc des réunions par définition sans patron, sont un exemple typique de la non-mixité stratégique pour faire valoir des droits, pour envisager des améliorations de la condition sociale. C'est accepté et a priori compris par tout le monde, puisque nous sommes là effectivement dans un rapport de force qui touche directement la question du capital. Plus tard, des femmes vont rejoindre ce type de syndicalisme qui, il faut bien le reconnaître, a aussi été un syndicalisme longtemps masculin. On peut notamment penser à l'expérience de l'IP.
Les femmes, c'est justement, on n'en parle pas assez. On dit toujours les travailleurs. Moi, j'aimerais bien qu'on dise à chaque fois les travailleurs et les travailleuses. Parce que chez l'IP, je crois qu'il y a à peu près 800 femmes, 400 hommes et 100 cadres. Je les compte à part. Hein. Bon, alors, je crois qu'avec 800 femmes, si la lutte marche comme ça, c'est tout de même beaucoup aussi à cause des femmes.
Oui, dans laquelle il y aura des groupes de femmes, justement, en non-mixité au sein même du mouvement syndical. Et alors, un autre exemple plus ancien qu'on peut donner, c'est un exemple qu'on a redécouvert ces dernières années, puisqu'on parle souvent de féministes du Moyen-Âge. C'est l'exemple des béguines qui sont apparues au XIIe siècle en Belgique et ensuite dans le nord de la France. Les béguines, c'est moins un ordre religieux qu'un rempart laïque au mariage et à l'autorité de la famille pour des jeunes filles qui étaient célibataires ou des veuves. Et finalement, c'était une forme de caution morale à la société, un lieu de vie en communauté et de liberté relative. D'ailleurs, à Paris, il y avait un couvent de béguines dans le Marais et les femmes avaient, dans ce cadre, le droit de s'instruire, de travailler, de vivre en autonomie financière et juridique. Alors évidemment, cette expérience a été de courte durée puisqu'elles ont été persécutées à partir du XIVe siècle. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon exemple de non-mixité choisi à un moment donné. Alors, on parlait tout à l'heure des clubs masculins. Il y a aussi eu des clubs de femmes qui se sont notamment développés sous la Révolution. Et évidemment, le ressac a été rapide puisqu'ils ont rapidement été interdits, notamment par la Convention.
Et dans le sillage de ce que tu viens de nous dire, Clémentine, on peut aussi penser, historiquement c'est un peu plus proche de nous, au phénomène développé par le Black Power, puisque au mi-temps des années 1960, aux États-Unis donc, c'est Stokely Carmichael qui est à la tête de l'Organisation pour les droits civiques, le comité de coordination non violent des étudiants, qui va décider de lancer ce mot d'ordre. C'est le mot d'ordre de l'autodétermination, c'est aussi le mot d'ordre de l'empowerment, c'est le fameux « buy us for us », tout comme les Black Panthers qui, eux aussi, ont demandé à une époque à ce que les membres blancs quittent les réunions pour éviter que la lutte des droits civiques ne soit noyautée, ne soit récupérée par des individus blancs ou blanches. Cela a créé pas mal de scissions à l'intérieur même de ces mouvements. Les activistes ont eu parfois des positions diverses, pour ne pas dire antagonistes, et on peut se souvenir par exemple du magazine Time qui parlait à l'époque de philosophie raciste. Donc on voit bien à quel point ici la question n'est pas simple, mais aussi à quel point elle a permis de faire émerger des mouvements antiracistes qui ont eu des effets à l'échelle mondiale sur cette même lutte.
Oui, on voit bien que l'exclusion est tolérée à sens unique, en tout cas. Et à ce sujet, la sociologue Christine Delphi en parlait en 2006 dans Le Monde diplomatique, dans un article intitulé « La non-mixité, une nécessité politique ». D'ailleurs, elle rappelle à raison que ce sont d'abord les femmes et les personnes minorisées qui ont vécu la non-mixité, donc subie, en étant exclues de la chose politique, et que la ségrégation a été une forme de domination, donc ça, tout le monde est d'accord. Ensuite, elle rappelle également que la mixité ne garantit pas l'égalité, contrairement à ce qu'on peut souvent entendre. D'ailleurs, c'est le cas à l'école, puisqu'elle produit parfois aussi de l'exclusion des personnes minorisées. Je la cite, « La pratique de la non-mixité est tout simplement la conséquence de la théorie de l'auto-émancipation. L'auto-émancipation, c'est la lutte par les opprimés pour les opprimés. Cette idée simple, il semble que chaque génération politique doive la redécouvrir. » Dans les années 60, elle a d'abord été redécouverte par le mouvement américain pour les droits civils, qui, après 2 ans de lutte mixte, a décidé de créer des groupes noirs fermés aux blancs.
Si on poursuit la réflexion entamée par Christine Delphi nous dit, par exemple, que les réunions non mixtes sont d'une importance, puisque, par exemple, je la cite, « pour que l'expérience de discrimination et d'humiliation puisse se dire, elle doit se dire, et Christine Delphi écrit, sans crainte de faire de la peine aux bons blancs. Elle poursuit, il faut aussi que la rancœur puisse s'exprimer. et elle doit s'exprimer. Elle poursuit encore, il faut que l'admiration que les opprimés, même révoltés, ne peuvent s'empêcher d'avoir pour les dominants, les noirs pour les blancs, les femmes pour les hommes, ne joue pas pour donner plus de poids aux représentants du groupe dominant. Et elle conclut, car dans les groupes mixtes, noirs, blancs ou femmes-hommes, et en général dans les groupes dominants-dominés, c'est la vision dominante du préjudice subi par le groupe dominé qui tend à dominer. Et effectivement, ces éléments, je les trouve particulièrement clairs, puisqu'ils disent à quel point l'idée de séparation quasi spatiale est ici absolument fondamentale pour pouvoir se défaire quasi mentalement, en termes de représentation, en termes d'imaginaire, de ce que la domination nous fait voir, nous fait comprendre, nous fait percevoir et nous fait aussi ressentir. Donc on voit ici à quel point la non-mixité choisie a pour enjeu de favoriser l'émergence d'un nouveau regard sur le monde, mais aussi d'un nouveau regard sur soi et sur les personnes avec lesquelles on lutte.
Oui, et cette expérience de la non-mixité raciale, donc dans la lutte pour les droits civiques, a inspiré en France d'autres groupes qui sont plutôt des groupes féministes, comme le MLF. Et d'ailleurs, deux chercheurs, donc Alban Jacquemart et Camille Masclé, ont étudié cette non-mixité dans les mouvements féministes de mai 68. Je vous renvoie à leur article publié dans la revue Clio. Il faut savoir qu'à l'époque, les militantes ont pu observer ce qui se passait dans les milieux d'extrême gauche et donc lors de mai 68. Et ce qu'elles y ont vu, c'était notamment l'expression du sexisme. Donc il faut savoir que la non-mixité qui a été décidée ne s'est pas faite de manière automatique dans les milieux féministes. Elle ne va pas de soi, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui. Les deux chercheurs écrivent dans leur article « La non-mixité devient un élément central du mouvement de libération des femmes MLF, allant même jusqu'à être analysée comme la métaphore du mouvement. Loin d'être une évidence pratiquée et partagée par toutes dès le premier instant du mouvement à partir de simples motifs idéologiques, elle s'impose progressivement comme une norme après une période d'acclimatation et d'apprentissage et au gré des expériences militantes. »
Et il y a eu des débats animés, des discussions continues sur le fait de favoriser les réunions non mixtes en précisant à chaque fois que ce sont des réunions qui ne sont pas contre les hommes qui participaient au mouvement, mais qui avaient pour objectif de favoriser l'émergence de la parole des femmes. Pour les participantes, il y a eu notamment un effet de révélation, l'idée d'une découverte soudaine lors de la première réunion organisée, mais il a fallu s'y habituer et apprendre à justifier ce type de pratique politique qui était perçue comme une transgression. La présence des hommes est alors conditionnée, par exemple, à des lieux et à des moments spécifiques, comme en manifestation, mais à l'arrière du cortège. On leur propose aussi de s'occuper de la crèche. La proposition, d'ailleurs, est toujours valable. Et, à contrario, d'autres mouvements, comme le MLAC, qui milite pour l'avortement et la contraception, sont mixtes et regroupent des médecins, par exemple. La présence majoritaire de gays dans les groupes homosexuels va aussi aboutir à une scission avec la naissance des Gwyn rouges.
En tout cas, le MLF va vraiment créer un précédent en France en imposant une nouvelle norme, donc un entre-soi féminin et une contre-culture féministe. Alors je continue à citer l'article. Au fil des années 70, de plus en plus de lieux et d'activités se déroulent en non-mixité. Il s'agit notamment d'espaces de rencontres temporaires, à l'image des journées, week-ends, voire camps de vacances organisés entre femmes. Les maisons ou centres de femmes qui ouvrent au cours de ces années constituent des espaces de rencontres plus permanents pour tout ou partie du mouvement, caractérisés par des aspirations autogestionnaires. Enfin, la non-mixité se diffuse et prend corps dans d'autres types de lieux et d'activités que ceux plus habituellement militants, librairies, troupes de théâtre, lieux de création artistique, émissions de radio par les femmes et pour les femmes. Si elle est rapidement théorisée comme un outil d'émancipation des femmes, ce n'est en effet que par des expériences pratiques que la séparation militante avec les hommes devient, au long de la décennie, une évidence non questionnée. Voilà. Fermer les guillemets.
2 ans après mai 68, a été comme une autre révolution parce que ces femmes ont décidé de faire un MLF sans les hommes. C'est-à-dire que c'était un mouvement non mixte. Et ça, ça a été très important parce que, à travers cette non-mixité, s'est mis en place la sisterhood, la sororité. Et ça, c'était très important parce que elles ont cessé de se définir par rapport à l'homme, par rapport au mari, par rapport au modèle masculin qu'on nous présentait comme le modèle que nous devions intégrer pour être acceptés dans la société.
Il faut savoir, évidemment, que par la suite, il y aura aussi des tensions et des scissions entre femmes autour des questions de classe, d'orientation sexuelle ou d'origine ethnique. Et par ailleurs, les groupes non mixtes qui ont pu exister entre hommes de leur côté, comme le mouvement de libération des hommes, MLH, vont péricliter rapidement, malheureusement.
Et tu nous disais auparavant, Clémentine, que chaque génération politique doit redécouvrir ce principe de lutte. Et en effet, c'est quelque chose de particulièrement vrai, puisqu'en 2016, alors que se profile ce qu'on appelait à l'époque, et ce qu'on appelle d'ailleurs toujours aujourd'hui le mouvement de Nuit Debout.
C'est un monde à part en plein Paris, sur la place de la République. Ici, on prétend tout réinventer, et cela commence par le calendrier.
On est quel jour, là, alors
on est le 37 mars, parce qu'on est le 6 avril.
37 mars, car le mouvement Nuit Debout a commencé 6 jours plus tôt, le 31, après une manifestation contre la loi El Khomri.
Le débat va ressurgir et va se créer dans ce contexte-là une commission féministe qui soulève à nouveau une levée de boucliers, comme en témoignent notamment ces propos d'un homme apparemment révolté et que le monde a bien voulu nous rapporter. En l'occurrence, cette personne nous disait « Je n'accepte pas sur une place publique d'être dépossédée du débat et d'être choisie comme cible ». Donc on voit bien à quel point ici Nuit Debout, par exemple, a pu être le théâtre de la remise en cause de ce principe de lutte. Et Fatima Benomar, la cofondatrice de l'association Effrontée, qui a assisté à quelques-unes de ces réunions, observe pour sa part, ouvrez les guillemets, ça facilite l'expression, notamment lorsqu'il faut parler d'expériences intimes et violentes autour d'hommes, on peut être gêné et éprouver des difficultés. Pas forcément parce qu'ils sont considérés comme des ennemis, mais parce qu'on ne peut pas se dire sans se sentir mal à l'aise face à certains propos.
Oui, donc pour donner quelques éléments peut-être de conclusion, on voit que le sexisme inversé ou le racisme anti-blanc qui ont pu être reprochés à ces stratégies militantes n'ont vraiment rien à voir, en tout cas avec les bénéfices que cette stratégie peut apporter aux personnes concernées. Après, on peut aussi se demander si la non-mixité peut être envisagée plus comme un moyen, mais comme une fin en soi. C'est peut-être le cas de la misandrie. Il faudrait se poser la question. Et on peut aussi ajouter que la non-mixité est une condition parfois nécessaire, mais qu'elle n'est pas toujours suffisante, puisque même dans certains lieux réservés aux femmes, comme l'espace de coworking The Wing, par exemple, à New York, dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes, il y a eu tout de même des LGBT-phobies et du racisme. Donc voilà, on voit que ce n'est même pas toujours suffisant.
Oui, effectivement, et ce qui me paraît assez paradoxal, c'est que des militants antiracistes, féministes et dans le milieu syndical notamment, mais aussi du côté des militants LGBTI, ont tendance à considérer la pratique de la non-mixité choisie comme une pratique parmi d'autres, comme un outil parmi d'autres dans la grande boîte à outils du militantisme critique, du militantisme d'opposition. Et c'est assez intéressant de voir à quel point la suspicion qui porte sur ce type de pratique est forte.
Le sujet des réunions non-mixtes, c'est devenu un sujet de polémique nationale. Moi, je vais vous dire, au départ, il y a quelques années, j'étais assez rétif. Je me disais, mais pourquoi faire ces réunions non mixtes j'ai écouté les uns et les autres, et j'ai découvert, notamment en m'intéressant en profondeur à cette question, que c'est le lieu dans lequel les victimes de discrimination peuvent le plus simplement déverrouiller la parole, libérer leur parole, s'exprimer, verbaliser les discriminations qu'elles vivent.
C'est le lieu aussi où on peut verbaliser des paroles anti-républicaines.
D'ailleurs, il me semble que ce n'est pas pour rien que le gouvernement a décidé de retenir l'idée de séparatisme comme délit, comme chose à combattre, puisqu'effectivement, il y a bien cette idée que finalement, si ces gens se mettent à part, ils se mettent à part pour fomenter contre la République, contre la France, contre la nation. Donc, assez paradoxalement, l'importance de la pratique en non-mixité, c'est une importance qui vient plutôt de ses opposants, et les militants et les militantes se trouvent régulièrement en situation, alors soit de relativiser ce type de pratique, soit au contraire d'en augmenter l'intensité, puisque cela permet de renforcer le rapport de force politique avec les dominants.
Oui, alors on va écouter le témoignage de Esther à propos de la non-mixité.
Je m'appelle Esther, j'ai 25 ans. Je suis journaliste et j'ai fréquenté les milieux militants afroféministes pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.
Alors la non-mixité, c'est une sécurité pour les personnes témoignantes. C'est une sécurité qui leur offre un cadre paisible et confiant pour s'exprimer sans avoir à craindre d'essuyer des jugements, des remises en cause ou même des questions, en fait. Oui, parce qu'on n'a pas toujours envie de répondre aux questions qui, parfois, sont synonymes aussi de remises en cause. Alors, pas toujours, hein. Il y a certaines questions qui sont posées avec une démarche sincère de compréhension et de bien faire. Sauf que parfois, le moment, il est juste pas propice aux questions et il faut bien comprendre qu'il y a un temps pour tout. Et en l'occurrence, lors des réunions en non-mixité, le temps, il est à la mise en place de stratégies de riposte. Il faut savoir que le temps et l'énergie aussi sont des denrées très très rares. C'est des denrées qui sont pas illimitées, voilà. Et si on passe notre temps et notre énergie à faire de la pédagogie plus qu'il n'en faut, au lieu de le passer à établir des stratégies efficaces de lutte contre les oppressions, bah c'est là qu'on est perdant, quoi. Donc le bénéfice finalement de la non-mixité, c'est un gain de temps et une économie d'énergie non négligeable. Et c'est grâce à ce gain de temps et cette économie d'énergie qu'on arrive finalement à avoir un cadre propice à l'élaboration de stratégies de survie, en fait, et de stratégies de lutte contre les oppressions.
Merci Esther pour ce témoignage. Alors du côté de notre expérience personnelle, toi, est-ce que tu as fait l'expérience de la non-mixité subie, choisie ?
La non-mixité subie, oui, comme toutes les femmes et comme toutes les personnes susceptibles d'être atteintes par le racisme. Mais j'ai aussi pratiqué la non-mixité femme et j'ai aussi pratiqué la non-mixité racisée. Ce sont des expériences qui, à chaque fois, dépassaient le simple groupe de parole, même si la parole y est bien évidemment centrale. Mais ce sont surtout des groupes qui avaient pour vocation l'organisation, la réflexion, la quête d'une manière d'agir, d'une manière de faire collectivement qui puisse servir une cause en identifiant les pouvoirs dominants et les formes de cette domination comme des causes illégitimes. Et toi, Clémentine ?
Bah, moi, la non-mixité, c'est mon secret beauté, ma routine du matin. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve, dont on s'est un peu moqué ces dernières années, comme étant peut-être un reliquat un peu ridicule des années 70 ou du mouvement hippie. Moi, je l'ai expérimenté plutôt dans le féminisme, puisque j'avais été à des réunions de Oser le féminisme, je pense, il y a une dizaine d'années. Pour le coup, c'était des réunions féministes mixtes, dans lesquelles on trouvait souvent un ou deux hommes esseulés qui prenaient systématiquement la parole. Et donc, moi, ça suffisait à me mettre mal à l'aise et à m'auto-censurer. Voilà, je me disais, il suffit d'un seul homme pour qu'on arrête de parler.
Un seul homme et tout est ruiné.
C'est ça. À l'inverse, à la Maison des Femmes de Montreuil, que je fréquente, il y a à la fois des temps non mixtes avec des femmes victimes de violences et des temps mixtes, par exemple des conférences, avec qui veut venir y assister. Et j'ai un autre exemple en tête après une marche des fiertés, une pride, où j'avais été sur une péniche pour une soirée réservée aux filles. Et quelques hommes voulaient absolument faire du forcing pour entrer et ne comprenaient pas qu'ils peuvent circuler librement dans absolument toute la ville, alors que les espaces réservés aux femmes, et en particulier aux femmes lesbiennes, queer et bi, sont quand même très rares. Donc voilà, vraiment, c'était incompréhensible pour eux. Mais en tout cas, je trouve intéressant dans les milieux militants de voir comment on décide et comment on choisit quels espaces sont mixtes et quels espaces sont non mixtes et quelles stratégies adopter. Et en tout cas, moi, c'est un débat en ce moment qui m'a laissé un peu perplexe parce que j'ai l'impression déjà que la vie, c'est pas un gâteau, c'est pas des vases communicants. C'est-à-dire que le fait que des gens puissent se réunir sans nous ne nous enlève rien, puisque le coût social est quand même très faible pour les dominants, que les dominés se réunissent à part. Voilà, c'est gratuit en fait. Pour autant, je peux entendre ce qui peut paraître radical ou ce qui peut paraître choquant lorsque c'est présenté d'une manière biaisée, en disant par exemple des réunions interdites aux blanches ou aux blancs, alors qu'en fait la réalité c'est pas des réunions interdites aux blancs ou aux blanches. La focalisation c'est pas donc l'interdiction ou l'exclusion, mais à l'inverse, c'est la communauté et la recréation du collectif. C'est vraiment ça qui compte. Et d'ailleurs, quand il m'arrive de regarder BFM, j'ai pu voir qu'une personne qui était d'assez mauvaise foi présentait les choses comme ça, en disant « Comment on sait si on a la peau assez foncée pour assister à ces réunions ? Qui décide ?» Et je me suis dit « Bah, je sais pas, c'est la personne concernée qui veut y aller, non ? Qui décide si elle peut y aller ou pas ?» Enfin, en fait, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Et donc, il y a une personne qui dessine le compte sur Instagram La Nuit Remue Paris, qui a fait une petite BD qui, je trouve, résume assez bien les enjeux de ce débat de manière très concrète, en demandant « Pourquoi est-ce que vous voudriez venir à une réunion d'alcooliques anonymes si vous n'êtes pas alcoolique ?» Pourquoi est-ce que vous voudriez absolument assister à une réunion religieuse si vous n'êtes pas croyant ou croyante ? Voilà, après, cette comparaison, évidemment, a des limites, mais je pense qu'elle aide peut-être à comprendre un petit peu les enjeux de ces débats. Voilà.
Le moment.
Pop
culture.
Pop culture.
Alors, pour parler un petit peu de pop culture et de la question de la non-mixité, dans le sillage des années 70 et de la contre-culture, on a vu émerger un certain nombre d'écritures collectives, de créations collectives. On peut penser par exemple au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui est né notamment grâce aux efforts de Delphine Seyrig et de Carole Rossopoulos, qui y ont archivé les luttes de femmes sous forme de mémoire visuelle. Et aujourd'hui, on peut penser au collectif 50-50 dans le cinéma. Moi, il y a un exemple qui me revient dans le premier film de Cédric Clapiche qui s'appelle Le Péril Jeune, qui raconte un moment très précis de la contestation des années 70 à travers un groupe d'amis. Et on voit une réunion féministe dans laquelle des garçons essaient de s'incruster en disant « Mais nous, on est comme des femmes ». Et voilà, ils se font rapidement dégager par les filles.
On peut rentrer ?
Non, pas aujourd'hui, c'est pas une réunion mixte, on préfère rester entre femmes.
Oh l'autre, entre femmes. Mais qu'est-ce que vous pouvez vous dire qu'on peut pas entendre ? Je ne comprends pas.
Des trucs de femmes.
On est comme des femmes, nous.
Bah moi, ça va pas, toi.
Non mais c'est bon, de toute façon, on voulait pas vous emmerder, on va y aller.
C'est ça, on préfère rester entre
femmes. Mais attends, juste se mettre dans un petit coin là-bas.
Mais tu comprends pas que les femmes aujourd'hui, elles ont besoin de résoudre leurs problèmes seules, sans les mecs. Ça fait des centaines d'années qu'on subit l'oppression et l'aliénation patriarcale. Aujourd'hui, on a besoin de s'organiser entre femmes pour lutter.
Là, t'exagères, parce que nous, on n'est pas responsables de tout ça. Et l'oppression des femmes, on est quand même assez ouvert, nous, pour en parler avec
vous. Ouais, s'il y a des problèmes à régler, on doit le faire ensemble, les hommes et les femmes. Ouais. Sinon, vous allez vous marginaliser, vous mettez vous-même dans un ghetto, là.
Exactement.
Ah, il cause bien, mon pote.
Ouais, c'est vrai. Reconnais qu'il a pas tout à fait tort.
Ah, ça vous fait peur qu'on puisse lutter sans vous, mais qu'est-ce que vous croyez ? On n'a pas tout le temps besoin de vous.
Mais pas tout le temps, ça veut dire un petit peu quand même. Et puis, c'est pas parce que les femmes ont été exclues pendant des années qu'il faut faire la même chose et exclure les hommes. Et ça, je crois que tu peux pas dire le contraire.
Mais nous, on dit pas le contraire. On dit simplement qu'on veut faire une réunion toute seule, tranquille. On discutera avec vous une autre fois. C'est pas pareil si vous êtes là.
Wow. Bon, on pensait fusionner le groupe gag avec le groupe femme.
Alors là, très drôle, la blague fallo.
Ouais, Alain, ta gueule. Sans rire, on peut pas rentrer juste un petit peu.
Non.
Bon, on va fonder le groupe homme. Puis voilà.
Allez, c'est ça,
Et puis nous, comme on est ouvert d'esprit, vous pourrez venir quand vous voulez.
Ça.
Pour qu'on s'exprime ensemble, qu'on se libère.
Non, mais qu'est-ce que vous avez là ? On dirait qu'on nous dit qu'on
s'est c'est pas possible.
C'est un problème,
ça va,
vous êtes
tout
en
suite, t'es agressive.
C'est ça, allez jouer au flipper, ça vous
dit. Mais ça va.
On peut penser effectivement aussi aux fictions anglo-saxonnes cette fois-ci, puisque dans le cadre de ces fictions, la réunion non mixte est souvent mise en scène comme un moment clé de la narration. On pense évidemment au formidable Dear White People ou I May Destroy You, des séries sur le militantisme et sur l'importance de ces groupes de parole politiques, notamment pour les personnes qui ont survécu à des violences racistes et ou sexistes. La série aussi, The Black Lady Sketch show avec uniquement des actrices afro-américaines.
What in the baby hair? It's a black lady courtroom.
Black lady courtroom. Black lady courtroom.
Il y a également le film Wonder Woman dont on parlait dans un épisode court récemment, puisque la partie en non-mixité entre les Amazones est vraiment circonscrite au début ou à la fin de ces films-là, et on trouve justement qu'on ne la voit pas assez. Ce serait peut-être une bonne inspiration à développer.
On peut penser aussi aux girls group des années 50-60. On y retrouve notamment des chanteuses noires. On pense aux Suprêmes, on pense aux Crystal, qui ont été à la fois manipulées par des producteurs véreux et sans scrupules, et qui ont décidé à un moment donné, par la chanson, de se soutenir, de produire des formes de solidarité. Et on retrouve notamment ça plus tard avec le groupe des Spice Girls.
This is about girl power. This is not about picking up guys. This is about girl power.
Have you got girl power, Eden?
Yeah. Well, that's exactly what I was going to ask you about, because I know you represent girl power. Tell us about it.
This is about spreading a positive vibe. Kicking it for the girls and yeah.
Oui, et toujours dans la musique, on se souvient de ce festival qui a été organisé en Suède, le Statement Festival, qui continue d'avoir lieu hors période de Covid, qui est réservé aux femmes. Et donc, voilà, c'est peut-être la réalisation de cette utopie anti-relou à laquelle rêve Marlène Schiappa, je ne sais pas.
Exactement.
Et de manière plus générale, dans le milieu festif, on peut penser à toutes les soirées lesbiennes et LGBT. Il y a aussi à Paris la soirée La Bringue de clarification. En tout cas, ce sont des stratégies qui permettent parfois d'éviter le harcèlement en milieu festif. Et pour revenir à la pop culture, on se souvient pour les fans de Ryan Murphy d'une saison de sa série American Horror Story, Coven, qui donc met en scène un couvent de sorcières en non-mixité. Et au cinéma, on peut également mentionner les nombreux remakes féminins qui ont vu le jour à Hollywood ces dernières années, puisque la non-mixité féminine a longtemps été un repoussoir avant de devenir un enjeu commercial, puisqu'on a vu qu'ils étaient appréciés par les femmes qui consommaient donc ces productions. On peut penser à SOS Fantôme, à Ocean's 8, ou à un autre film qui n'est pas un remake, mais que moi j'aime bien, qui est une parodie de film policier de Paul Feig, c'est Les Flingueuses, avec Melissa McCarthy et Sandra Bullock.
Qu'est-ce que tu kiffes ?
Qu'est-ce que t'écoutes ?
Les recommandations.
Qu'est-ce que t'as dans ta besace ?
Les recommandations
culturelles.
Qu'est-ce que tu lis ?
Les recommandations culturelles.
De quoi de meuf ? Alors cette semaine, tu nous recommandes un livre ?
Oui, cette semaine, pour la recommandation culturelle, je conseille à nos auditeurs et à nos auditrices de découvrir un romancier que peut-être ils et elles ne connaissent pas encore. C'est un romancier qui s'appelle Karim Khatan et qui est l'auteur d'un ouvrage que j'ai trouvé assez sublime, intitulé « Le palais des deux collines », qui se déroule en Palestine et qui revient sur la question du retour, sur la question de l'impossible retour, sur la question de l'exil, à partir notamment de la trajectoire d'un personnage mystérieux qui redécouvre une certaine Palestine, mais c'est une Palestine fictive. Et Karim Khatan, dans son travail, pose justement la question de la fictionnalisation politique de la Palestine, du fait que ce conflit peinerait à être résolu d'un point de vue politique. Donc pour les personnes qui s'intéressent à ces questions, je vous recommande vivement ce premier roman de Karim Khatan, et c'est aux éditions Elisade. Et les éditions Elisade, ce sont des éditions que nous soutenons vivement. C'est une maison d'édition tunisienne qui fait un travail assez incroyable. Et toi, Clémentine, quelle est ta recommandation culturelle pour cet épisode ?
Alors moi, c'est aussi un livre, c'est un roman qui s'appelle « Viendra le temps du feu », c'est un très beau titre. C'est aux éditions Cambourakis et il est écrit par Wendy Delorme, qui est une performeuse féministe que l'on connaît bien. C'est un récit d'anticipation et de survie sur un monde apocalyptique et sécuritaire qui est donc pas si éloigné du nôtre en ce moment. Et il semblerait qu'il soit inspiré des Guerrières de Monique Wittig et, à mon avis, de la Servante écarlate également. Voilà, donc je vous le recommande.
Allô, allô,
allô, allô,
monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute ?
Alors cette semaine, dans le courrier des auditrices, il y a Claire, et Claire nous demande ce que veut dire tous, T-E-X ou tous XTES. Alors réponse Clémentine, qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, alors merci pour cette question. Alors le X permet d'inclure les personnes non binaires, tout simplement. Et d'ailleurs, pour info, aux États-Unis, des personnes ont demandé à changer leur carte d'identité ou leur permis de conduire. Et donc, à la place du sexe où il y a en général écrit M ou F, donc male ou female, on peut désormais avoir un X pour les personnes non binaires. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question de la non-mixité. Vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez aussi nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide à être référencés. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine où l'on parlera de Kay Tempest. Merci, salut Kaoutar.
À bientôt.
Quadmeuf est une émission de Nouvelles Écoutes, rédaction en chef Clémentine Gallo,
journaliste chroniqueuse Kaoutar Archi,
mixage Laurie Galigani, prise de son Adrien Beccaria à l'arrière-boutique, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, réalisation, montage et coordination Ashley Tola.